Et bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ah, ça y est, on se retrouve, ça fait un bout de temps. Ça fait un vrai bon gros bout de temps. J'étais absolument focus sur plein de choses qui se commençaient, qui s'arrêtaient, qui tout ça. Je suis désolé. Voilà, je suis là. Je vais pas être là très régulièrement non plus parce que je vais avoir peu de temps à moi quand je me promène avec le chien. Mais je suis là. Ah, pour commencer, une petite recommandation. Voilà. Je découvre un truc. Là, on est en train de se balader dans une un site archéologique en pleine forêt, un truc avec des vieux bâtiments, une ancienne église, tout ça, c'est trop bien. Dans le coin de Metz. Première recommandation qui va vous étonner, j'aime bien suivre l'actualité des gens que je parle d'artistes que j'ai pu connaître à une époque parce qu'ils ont percé, comme on dit. Vous imaginez qu'il y a une espèce de membrane comme ça, qui fait que quand les gens arrivent à passer la membrane, ils deviennent des personnalités publiques. Et que après, généralement, ils ont une raison de le faire, un morceau, un film, une scène, un personnage, un mème, parfois. Et puis, après, ils se figent un peu dans le temps, c'est-à-dire on garde ce truc. Et puis, quand ils commencent à décliner, ben, ils repassent de l'autre côté de la membrane. Et on les distingue plus, sauf les fans qui veulent suivre l'actualité de cette personne-là. Donc, il y a plein d'artistes comme ça dans les années 90-2000 que j'écoutais beaucoup. Et puis, je suis passé à autre chose parce qu'ils ont, ils sont pas restés du côté public. Et je découvre comme ça, des années après, comment ils ont essayé de repasser la membrane et de revenir du côté public. Et je réfléchis aussi un petit peu aux raisons pour lesquelles ils n'y arrivent pas. Alors, c'est pas vraiment le sujet de ce podcast, mais j'avais envie de vous mettre en avant une artiste qui m'a étonné, vraiment positivement étonné, dans ses tentatives de repasser la membrane vers l'espace public. C'est la chanteuse Laurie. Vous connaissez Laurie parce que, voilà, vous avez peut-être déjà entendu les chansons des années 2000 qu'elle chantait. C'était un peu notre Britney Spears à nous, quoi. Elle chantait des trucs genre « C'est le week-end »,« Tu seras ma meilleure amie », je sais pas quoi. Je me souviens plus de ses plus gros hits. Mais c'était des machins qui passaient en boîte, etc., etc. Bon. Et elle a fait son morceau, puis elle est repartie de l'autre côté parce que, ben, au-delà de la génération qui adorait danser avec elle et qui avait 15 ans, peut-être même pas, eh ben, la génération a grandi et quelques années après, elle est devenue un peu ringarde. Donc, elle est repartie. Et donc, fin 2005-2006, hop, elle a disparu. Et il y a eu un silence. Alors, est-ce qu'elle a... Je la soupçonne d'avoir fondé une famille, fait des enfants, vécu un peu sa meilleure vie. Elle revient en 2011 avec un album intégral, je crois que ça s'appelle, il me semble. Et alors, elle a changé de créneau. Et moi, j'écoute beaucoup cet album en ce moment parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je le découvre, surtout je le creuse, je l'approfondis parce que elle a décidé de choisir l'angle de Mylène Farmer. Et elle a des choses à dire, et c'est profond, c'est malin, c'est artistique, c'est des accompagnements avec des vrais orchestres, avec des vrais instruments, c'est bien travaillé, c'est dansant, c'est des petites mélodies qui fonctionnent bien. Elle avait tout pour réussir, et ben on a dit non, c'est Laurie, c'est pour les gamins, donc on n'en veut pas. Et je vous jure, c'est malin comme truc, moi j'aime beaucoup cet album, disons que je lui donne un 15 sur 20. D'accord. Et elle redisparaît, alors elle sort encore des morceaux, notamment de reprises de musique de danse, enfin qui sont connues pour la danse, des salsas, des tangos, des trucs, parce qu'elle sait qu'elle est positionnée d'un point de vue marketing en danse, parce que c'était des chorégraphies incroyables, hein, Laurie, pour les ados, et puis par la suite aussi. Et donc elle se dit qu'elle va jouer cette carte-là. Je pense que dans les milieux un peu niche, ça a pu marcher un peu, mais Laurie... Ça sonne ringard, voilà, ça sonne pour les petites filles, quoi. Donc ça marche pas. Et enfin, ça marche pas. J'ai regardé les chiffres de vente qu'elle a fait d'albums, même si ça ne veut plus dire grand-chose à l'ère des streamings, mais sur Wikipédia, on a ça. Son premier album, 1 million de ventes, pas de problème. Ses deux derniers albums dont je parle là, c'est 5000 ventes chacun. Donc, la claque est dure. Alors, elle s'est fâchée à ce moment-là avec sa boîte de production en disant que la boîte de production ne l'avait pas du tout lancée comme il fallait en 2011, que c'était n'importe quoi. Donc, elle quitte la boîte de prod, elle en va en voir une autre. Elle essaye de relancer quelque chose, mais il y a des ratés, ça marche pas, l'album ne peut pas se faire. Il se passe des années, des années. 2017, elle revient. Et là, bon, bah, la petite Laurie, elle a dans les 40 berges maintenant. Peut-être un peu moins, mais vraiment pas beaucoup moins. Et elle est maman, elle a vécu plein de trucs. Elle a envie de parler d'amour, elle a envie de parler... J'imagine que si elle est très moderne, comme l'est toute notre génération, elle a divorcé. Désolé pour le cynisme. Mais bon, elle a des choses à dire. Elle veut parler d'amour, elle veut parler de la vie, elle veut parler des enfants, elle veut parler de tout ça. Elle sort un album acoustique. Enfin, plus ou moins acoustique. En tout cas, avec des sons guitare sèche, etc. Toujours des vrais instruments, quasiment pas de synthé. Et elle retravaille ça, des textes qui sont jolis, des mélodies qui sont très belles. Elle tente maintenant de s'appeler Laurie Pesquet, je crois, c'est son nom de famille. C'est un truc comme ça, je suis désolé, c'est peut-être pas ce mot-là, mais c'est pas loin. Et donc, elle tente de se redéfinir, de dire « mais je suis une vraie personne, arrêtez avec la marque Laurie, j'arrive avec quelque chose, j'ai quelque chose à raconter ». Et flop, pareil. Alors que vraiment, je vous jure, c'est des trucs malins. C'est vraiment des choses qui pourraient vous plaire. Donc, on est il y a 7 ans, plus ou moins, et puis il se passe plus rien. Elle est, j'imagine, vraiment dégoûtée. Et là, les choses retravaillent encore. Et puis elle se dit, attends, 2024, je vais tenter un petit retour. Comme ça, juste un petit signal, une espèce de nostalgie, un truc bien fait. Et elle nous a sorti 5 morceaux. Qui sont ces morceaux phares des années 2000, donc les morceaux pour les Jones, d'accord, qu'on les appelait comme ça à l'époque, des morceaux pour les Jones, et elle les croise avec Bilal Hanimi, elle les croise avec, je sais pas les autres, je les connais même pas, c'est des artistes actuels, des chanteurs, des trucs, et elle fait des duos, il y en a un ou deux que je trouve vraiment génial. Elle refait tout le mix pour donner un son actuel, quelque chose qui claque bien actuellement, et elle va dérouler ça. Et j'en ai pas entendu parler, je suis tombé dessus un peu par hasard, je vous avoue. Donc j'imagine qu'elle est de nouveau pas passée la membrane. Mais je vous avoue que je regarde régulièrement comme ça un peu ce que les artistes deviennent. Je vais voir leurs derniers albums, il y en a que je trouve très déclinant, finalement, le coup de génie a disparu. Elle, je trouve qu'elle se transforme de plus en plus. Elle a tenté une transformation Mylène Farmer qui était vraiment bien, pas passée. Elle tente une nouvelle transformation plus pop, plus folk, quelque part. Ça marche vraiment bien, elle est pas passée. Et je trouve ça vraiment dommage. Je pense qu'il y a quelque chose de trop ringard à dire aux gens que vous aimez Laurie, mais c'est terrible. Je veux dire, elle devrait carrément se redéfinir. Si vous vous souvenez de Karen Cheryl, dans les années 90, qui faisait des chansons aussi un peu niaises, comme ça, elle est devenue Isabelle... je sais plus. Bref, elle est chroniqueuse aujourd'hui à la radio depuis longtemps, etc. Et elle a fait d'autres émissions, elle a fait sa carrière et elle a changé de nom pour nettoyer un peu le travail de Karen Cheryl. Et je pense que Laurie essaye trop de compter sur ses fans de la première heure alors qu'ils ont grandi, ils ont 40 ans, ils vont pas dire maintenant « Ouais, moi j'adore Laurie ». Il y a quelque chose de trop infantilisant à faire ça. Donc je pense que, c'est un beau gâchis parce que c'est une femme qui a un talent monstrueux et qui va sans doute... Oh, elle a l'air d'avoir un peu la niaque, donc elle va sans doute réessayer plusieurs fois encore, mais il y a quelque chose qui... Voilà. Donc, je vous invite à explorer un peu ces albums-là, parce que si vous connaissez les morceaux premiers, il se peut fortement que vous soyez un peu étonné des morceaux à venir. Voilà. Ça vaut le coup d'être dit. Ceci étant... Donc, je voulais qu'on parle aujourd'hui de quelque chose d'autre qui concerne ce qu'on est en train de faire en ce moment avec Fleur. On appelle ça le master plan. Et c'est un peu parce qu'on estime qu'on a perdu beaucoup d'énergie, pas pour rien, hein, y a eu des effets, mais des trucs un peu pas bien maîtrisés, un peu genre on sème un peu toutes les graines et on regarde ce qui pousse. Et on essaye de proposer des choses un peu toujours sur le fil, on a toujours un petit temps de retard, les problèmes on les gère, les choses qui manquent on y travaille, et on s'est beaucoup épuisé là-dessus. Les résultats au cercle de rédacteurs ne sont pas satisfaisants par rapport à nos objectifs, et ne sont pas beaucoup... Enfin, je pense qu'il y a un vrai levier de progression, je vais arrêter avec mon discours de start-upper. On passe à côté de pas mal de choses, on a des produits qui sont... excellent, on a des accompagnements qui sont excellents, on a un incubateur, on a une agence, on a une formation pro, on a une formation accessible à petit prix qui est extrêmement complète, on a des MOOC, on développe des choses, on a même un groupe sur Facebook maintenant qui est dédié aux anciens élèves et aux élèves et qui propose des masterclass et des choses comme ça gratuitement. On a quelque chose qui me plaît sur le papier, mais qui est bordélique. C'est vraiment pas possible. Donc, on passe au master plan. Et le master plan, ça signifie, OK, on va mettre sur le papier tout ce qu'on a. Alors, en réalité, c'est des pages Notion, parce que ça permet d'interconnecter, de moduler, de faire des trucs. Donc, c'est un peu plus flex, on va dire, pour pouvoir mettre de la donnée. On a aussi utilisé, comment il s'appelle ? Pas Google Form, l'autre. Je crois que c'est juste Form, d'Apple. J'ai l'impression que je passe à côté de quelque chose. C'est pas... Bref, c'est la nouvelle application qu'ils ont sortie qui permet de faire des dessins, des graphiques, des trucs et de zoomer beaucoup et de voilà, une espèce de tableau blanc pas infini mais pas loin, etc. Donc ça permet de vraiment faire les réunions ensemble, de travailler sur le détail et on essaye de donner du sens à chaque chose. Donc déjà, premier étonnement, quand on a commencé à faire ça, on a viré des trucs en disant ben ça en fait on le fait mais ça sert à rien, ça nous apporte rien, ça communique rien, ça aide pas grand monde, ça a pas de fonction, donc allez hop. Et donc déjà, quand on essaye d'affiner les choses de cette manière-là, on a déjà une espèce de potentialité qui est redistribuée et qui permet justement de bien réfléchir à comment on va investir notre temps. Le temps n'est vraiment pas infini et la première étape, c'est de dire dans quoi j'investis plus. Donc moi, je vous recommande de faire ça. Je vous le dis en tant que rédacteur, rédactrice web, éventuellement freelance ou d'autres métiers qui nous écoutent, que je salue, et d'ailleurs pour lesquels on va travailler bientôt ensemble. On va vous créer des espaces d'accompagnement en marketing et en communication, spécialement pour vous qui êtes des autres métiers. Bref, on va travailler sur ces choses-là, mais pour vous, vous devez aussi penser de la même manière que nous à ce fameux master plan. Le master plan, ça va être quelque chose qui va, à la fin, avoir un calendrier avec des étapes à mener qu'on ne questionne plus. Il faut faire, c'est tout, comme des devoirs à la maison une fois qu'on a fait ça. Et ça a pour but de faire pousser des fruits, en quelque sorte, fruits qu'on pourra récolter. C'est ce qu'on souhaite. Si je vous donne un carré de terre, vous pouvez toujours au début dire « je laisse pousser, je vais bien regarder ce qui se mange », puis après vous direz « je sème toutes les graines, on verra bien ce qui pousse », puis après vous direz « j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça », et puis ben, finalement ça poussera pas comme il faut parce que les plantes entre elles, la lumière, l'éclairage, l'optimisation, ça sera pas ça. Donc ça va pas aller. Et on va, comme ça, au fur et à mesure, commencer à rationaliser les ressources qui sont là et on va commencer à travailler sur la meilleure exploitation possible du petit espace qu'on a. Alors, le petit espace de terre que vous avez, qu'on va appeler le jardin ici, c'est votre temps de travail. Et la question, c'est comment vous allez faire fructifier le mieux possible votre temps. Parce que vous avez d'autres choses à faire, genre regarder Netflix, genre sortir, promener le chien, genre peut-être participer à des projets qui vous plaisent, des associations, des trucs, des amis, des collègues à voir, des week-ends plaisir. Vous avez d'autres choses à faire qu'à travailler. Donc l'espace sur lequel vous avez planté vos graines, il est limité. Et il faut le limiter. Il ne faut pas se dire « oh ça va, ce week-end je fais rien, je vais travailler ». Mauvais raisonnement, vous allez vers l'épuisement quand vous faites ça. Vous allez vers le chaos, l'épuisement, le stress, le sentiment d'être toujours en retard, la procrastination arrive tout de suite, vraiment. Genre, vous êtes là le week-end et vous dites, bon, j'avais dit que je bosserais, mais c'est le week-end quand même, allez, je vais quand même me mater un petit film. Terminé, procrastination directe. Donc, des horaires de début et des horaires de fin pour chaque travail, des méthodes aussi chaque jour, et ça vous les connaissez ces méthodes, hein, que ce soit avaler le crapaud, si je me souviens bien, qui consiste à commencer par la chose la plus dure de la journée et de toujours commencer par là, ou Make Time, qui est un livre vraiment intéressant, écrit par des anciens de chez Google, si je ne me trompe pas, et qui consiste en gros, alors il y a plein de conseils, mais il y en a un principal qui est de dire chaque jour vous faites une chose importante, et le reste du temps, vous faites des trucs secondaires, mais chaque jour, une chose importante pour votre projet. Donc, vous planifiez les choses importantes que vous allez faire, et chaque jour, c'est votre combat. Ils imaginent carrément un chevalier. C'est votre combat, vous allez combattre ça. D'accord ? Bon, ça marche très bien. Vous avez le Get Things Done aussi. Vous avez la technique du bullet journal. Vous avez les systèmes de to-do list. Vous avez etc., etc. Choisissez votre technique, mais ayez des techniques. D'accord, ayez des techniques, sinon ça va être la mort. Et surtout, une bonne technique définisse les tâches que vous faites dans la journée et pas plus. D'accord, la bonne technique, elle vous dit, lundi, tu fais ça. Elle vous dit pas, il reste tout ça à faire, dépêche-toi. Elle dit, lundi, tu fais ça. Point. Et ça, c'est une très bonne technique. D'accord, quand vous faites ça, c'est vraiment une très bonne technique. Donc, le master plan... Dans un premier temps, on va évaluer tout ce qu'on fait. Vous, par exemple, en termes de communication, en termes d'administration, en termes de prospection, sur le développement de votre propre site internet, sur le développement de vos pages, sur Malte, sur ComeUp, sur d'autres, etc. Bref, toutes les choses stratégiques que vous devez faire, tout ce qui a de l'importance, mais aussi votre travail même d'écriture, les techniques d'écriture, les apprentissages, les formations, toutes ces choses-là, vous allez les poser et vous allez les évaluer. Est-ce que j'en ai besoin maintenant, plus tard? Est-ce que ça rentre dans les priorités? Est-ce que s'il fallait que je parte sur une île déserte, j'embarquerais ce truc-là? Choisissez les techniques pour pouvoir faire le tri, ou la technique, bien sûr, de Marie Kondo, c'est-à-dire le Spark Joy. Est-ce que ce que je fais me remplit de joie? Vous pouvez le faire aussi, mais là, l'administration, ça va vite dégager. Bref, et pourquoi pas, je dirais à la limite, hein, j'ai des amis qui accompagnent les entreprises petites et grandes, et la partie administrative, je crois que ça coûte 50 balles par mois, et c'est eux qui la font. Donc si vraiment pour vous c'est un moment pénible, ben faites plutôt des choses qui vous remplissent de joie et sous-traitez ça. On commence à penser comme ça, d'accord ? Bref, le master plan va commencer par évaluer chacune des choses que vous faites. Et pour ça, en fait, il faut faire des liens, il faut faire des chemins. Par exemple, le chemin d'une journée, alors bon, ça marche pas avec tout, nous on travaille beaucoup sur le chapitre communication, donc je vous dis comment ça marche, à vous d'adapter après pour le reste. La personne qui a ce profil-là, comment elle nous trouve, qu'est-ce qu'elle trouve, qu'est-ce qu'elle comprend de nous, comment elle évolue, comment elle identifie notre produit, comment elle comprend l'intérêt de notre produit, comment elle l'achète. Ça nous fait ce qu'on appelle un tunnel de vente ou alors un parcours client, à vous de choisir. Et donc, on va le dessiner à partir du master plan. Donc, ça nous permet de dire, bah, en fait, ce truc-là, on avait dit qu'on le ferait, mais il ne rapporte rien quasiment. C'est quasiment impossible de réussir là-dessus. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Allez, hop, on l'écarte. Et puis d'autres, ça va être, tiens, le machin-là qu'on avait dit, si on le fait comme ça, on peut le placer sur ce chemin-là. Et là, c'est vraiment un boost. Ah oui, d'accord, très bien. Donc, vraiment, on passe du temps là-dessus à définir les chemins, à travailler ces chemins, à bien regarder les étapes, à regarder ce qu'on a fait aussi. Enfin, pour l'instant, on essaye de pas trop évaluer notre site parce qu'il est un millefeuille idiot des 15 dernières années, peut-être. Il y a des articles qui doivent dater de 2012, je pense. Donc plus les 12, mais voilà, et il va falloir les questionner, ces articles. Il va falloir se demander quelles sont les ressources qu'on partage avec les gens. Il va falloir regarder plus en détail chacune des pages et se questionner sur ce qu'on peut y apporter. On l'a fait d'ailleurs, il y a tout un chapitre qui est comment doit fonctionner le journal, le blog, peu importe comment vous l'appelez, du Cercle des rédacteurs qui contient 400 articles, comment fonctionnent les 4 guides, contenu, texte qu'on a mis, qui contiennent chacun, enfin pas chacun, mais tous ensemble, environ 250 articles, qui sont des apprentissages de SEO et des choses comme ça. Comment on peut revaloriser tout ça? Parce que les gens passent à côté, on a bien les statistiques, on voit qu'il y a genre une personne qui tombe dessus par hasard en disant « Ah, mais en fait, il y a plein de ressources !» Oui, il y a plein de ressources. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose de mieux? On peut. faisons-le. Donc, pour moi, ça m'intéresse beaucoup de re-questionner tout ça, parce qu'on va se dire, mais attends, là, on a investi tant et tant, on a passé tant et tant de temps, on a mis ce truc-là en place, on pensait que ça servait à ça, mais en fait, personne passe dessus et ça marche quand même. Donc, ce truc, il faut qu'on le revalorise autrement. Il faut qu'on le déconstruise, qu'on le reconstruise, qu'on le reforme, qu'on essaye de lui redonner du sens, etc., etc. Donc, c'est vraiment intéressant comme bilan, parce que vraiment, c'est déjà, Fleur, elle est avec moi depuis 2020, et elle rame, et elle a l'occasion, enfin, d'évaluer chacun des outils qu'on utilise, et de pouvoir faire un peu le tri là-dedans, en disant, bah, ça, on le valorise, mais ça apporte rien, ça, on le valorise pas, alors que tout le monde nous le demande, tiens, j'ai de la demande encore là-dessus, personne fait ça. Bref, ça nous permet de redéfinir un peu les choses. Ça nous permet aussi de faire, pour le coup, des choses plus importantes, en se disant, ben, le truc qui va vraiment bien marcher. Regardez, un truc tout bête, vous êtes freelance, ok, vous faites pas de vidéos sur YouTube, vous. Vous faites très probablement pas, j'en vois quasiment jamais. Je vois des gens qui vendent des formations, je vois des influenceurs, vaguement, je vois, enfin, ils vendent toujours quelque chose, mais vous, freelance, vous faites jamais ça. Ou alors, vous devenez YouTuber. Comme Basti, par exemple, Basti sans MS, qui est un designer et qui fait des grandes vidéos de design. C'est super bien ce qu'il fait, mais il en vit. Il gagne de l'argent grâce à ça, et puis il faut se challenger pour faire des vidéos qui marchent, tout ça, mais il y a peut-être des étapes avant qui sont intéressantes. Quand on sait que YouTube est le deuxième plus gros moteur de recherche du monde, on peut peut-être mettre des choses intéressantes. Si on commence à travailler sur les besoins de nos clients, et ce qu'ils pourraient éventuellement rechercher comme réponse, ça serait vraiment bien. Après, vous allez me dire, ouais, mais David, j'ai pas le matériel, oh là là, et puis en plus, je sais pas faire. Bah, bienvenue au club. Donc déjà, je sais pas faire, ça se règle par des tutos sur YouTube. Oh oui, j'ai envie de chanter des trucs maintenant. Donc des tutos sur YouTube, il y en a plein. Donc allez-y. Et puis, ben, pour ce qui est du matériel, ben, un smartphone, un casque avec une prise micro, et let's go. Éclairage, machin, vous allez vite apprendre, hein. Moi j'ai fait de la formation de j'apprenais à mes élèves à faire des vidéos sur YouTube. Je crois pas qu'il y en ait un qui en ait fait, mais c'est pas grave, ils savent faire, en tout cas ils en ont même d'ailleurs fait pour nous, et c'est chouette. Mais voilà, donc, notre formation est truffée de vidéos de gens qui sont super bien faits, qui ont bien tourné, qui vraiment c'est propre, c'est bien. Donc on peut faire ces formations là mais voilà un outil, par exemple, que vous pouvez évaluer. Je ne dis pas que vous allez l'évaluer, que vous devez l'évaluer, mais vous pouvez vous dire, ok, mon client de base, il va où ? Il va sur Malte, par exemple, et puis il fait des recherches, mais là, je ne suis pas distinguable. À cet endroit-là, il ne me trouve pas spécialement plutôt qu'un autre. Donc, bof. Mais vous pouvez aussi, à l'inverse, dire, oh là là, mon client, lui, je vais faire qu'ils me rencontrent ailleurs et qu'ils vivent quelque chose avec moi. Alors je vous le dis, parce qu'on est en train d'écouter des podcasts là, vous êtes en train de m'écouter, misez pas sur le podcast. Le podcast, c'est comme Twitch, c'est, il n'y a pas de mise en avant, d'accord, il n'y a pas d'éditorialisation. Quand vous allez sur YouTube, vous avez des recommandations de vidéos YouTube, donc en fait, en gros, sur une vidéo YouTube, 30-40% de votre fréquentation, c'est des gens à qui YouTube a recommandé votre vidéo parce que les profils se ressemblent. C'est très très bien de faire comme ça, vous avez tout le temps du nouveau public. Sur Google, vous avez les habitués et ceux qui vous découvrent. Vous voyez que Google met en avant de manière un peu aléatoire les liens pour pouvoir créer du trafic qui se renouvelle. D'accord ? Donc, sur les podcasts, il n'y a rien, donc vous devez ramer à côté de votre podcast pour réussir à ce que les gens trouvent. Donc ça veut dire créer son propre blog, partager sur des plateformes, créer des pages dédiées sur les réseaux sociaux, alimenter ces pages avec des liens externes que les réseaux sociaux détestent et donc c'est pas mis en avant comme il faut, etc., etc. Ok. Et puis pour Twitch, c'est pareil. Twitch ne met quasiment personne en avant. Enfin, c'est trop chaotique et c'est pas visible et personne ne considère que Twitch met en avant. Donc il n'y a pas. Le bouche à oreille peut marcher, mais ça va être très long. D'accord ? À moins que vous fassiez un coup d'éclat sur Twitch, mais je vous le déconseille parce qu'après c'est comme Laurie. Vous serez catalogué. Donc, on a cette question. Comment est-ce qu'on fait pour être le plus mis en avant possible ? Il y a des gens qui pourraient dire TikTok. Par exemple, moi, ça fait partie des hypothèses dans le master plan. Est-ce que on investit TikTok? Et la réponse est non. Parce que les gens qui sont sur TikTok font du TikTok. Ça veut dire, je m'explique. Quand vous regardez une vidéo sur YouTube et que vous en parlez à un ami, vous dites naturellement, j'ai vu un créateur sur YouTube qui parlait de ça, il s'appelle machin, et ça parlait de ça, et c'était vraiment intéressant. Quand vous allez sur un compte Instagram, Instagram qu'on pourrait citer, mais est-ce que vos clients sont sur Instagram? Voilà la question à laquelle il faut répondre d'abord. Ben là, vous dites, ben j'ai trouvé un compte sur Instagram, ça s'appelle truc bidule, et le gars il fait ça, ou la meuf elle fait ça, c'est fantastique. Ok? Quand vous allez sur TikTok, vous dites, j'ai vu un TikTok. Vous ne citez quasiment jamais les auteurs. Ça ne vous intéresse pas du tout. Vous les zappez tout de suite. En fait, c'est un énorme catalogue de gens dépersonnalisés qui font des trucs qui vous amusent. Moi, j'adore TikTok. J'adore trop. D'accord, j'adore TikTok comme on aime le sucre. C'est pas une bonne chose. C'est pas bon pour la santé. Ça vous bouffe tout votre temps libre. Et puis, mais j'ai toujours aimé zapper. J'ai toujours été quelqu'un qui zappait. Alors pour le coup, TikTok, ben c'est mon fantasme. C'est la concrétisation de toute ma vie de zapper. Donc, en tout cas, TikTok, vous n'arriverez pas à vous n'arriverez pas à percer sur TikTok. Il y a quelques rares personnes qui sont devenues des stars de TikTok, mais sincèrement, il y en a une qui s'est fait effacer son compte il n'y a pas longtemps, tout le monde en a parlé, on l'a déjà oublié, hein. Je ne sais plus qui c'est. TikTok, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de gens différents que vous rencontrez, qui font beaucoup, beaucoup trop de choses géniales, que vous admirez, qui vous parlent, qui vous choquent, qui vous brusquent, qui vous dérangent. Voilà, ce matin, j'ai vu quoi? J'ai vu une vidéo d'une caméra de surveillance qui filmait un chien de garde près d'une maison quelque part, je sais pas trop dans quel pays, et il y a un guépard qui est arrivé. Le guépard, il a vu le chien, il a avancé vers le chien, 2 secondes après, il tenait le chien à la gorge, il a tué le chien, il est reparti avec le chien. Plus de chien. J'ai démarré la journée par un truc comme ça. On est bien. Bref, j'ai vu peut-être 200 autres TikTok, je m'en souviens plus. Donc voilà, je vous le dis, investissez pas là-dedans si jamais vous voulez faire de la communication. Allez-y si vous voulez avoir votre petite fame, discuter avec des gens. C'est très chouette en réseau social. Beaucoup de commentaires bienveillants, souvent. Ça se passe bien, ça crie pas. La modération est radicale, donc généralement, ça se passe pas trop mal. Beaucoup de discours progressistes, mine de rien. Donc, enfin, je suis sur ces canaux-là. Il y a peut-être un pendant de l'autre côté qui est affreux. Bref, ça peut être très très chouette, mais pas si vous voulez vous faire connaître. Enfin, je crois. Je m'avance beaucoup. Je crois. TikTok, en même temps, est en train de changer. Ils sont en train de piquer des concepts à YouTube, notamment des vidéos longues qui peuvent faire une heure, je crois, bientôt. Des vidéos en horizontale plutôt que verticale. Donc, il y a quelque chose qui est en train de changer aussi chez eux. Peut-être que ça deviendra quelque chose de vraiment intéressant bientôt. Pour la communication, en tout cas pour l'instant, c'est du zapping et je vous déconseille d'être l'objet du zapping. Bref, le master plan, ça sert à ça. Savoir dans quoi vous misez et pourquoi vous misez là-dedans. C'est dur quand on est enthousiaste, quand on est pressé, quand on a envie de résultats. C'est dur de se poser et de dire « Attendons une seconde, il faut qu'on réfléchisse un peu à ce qu'on va faire. À quoi sert chaque chose ?» C'est dur, mais quand c'est fait, parce que ça peut prendre du temps, moi je dis aux gens « Prenez 2 semaines s'il le faut pour faire le master plan. » Avant de démarrer votre activité, quelle qu'elle soit. J'ai vu encore... Pardon, je fais des petites parenthèses. J'ai vu une interview. Je crois que c'est une chaîne qui s'appelle Solo quelque chose. Je ne l'ai plus en tête. Qui interview des gens. Qui a interviewé Inès Sivignon, qui est une formatrice, enfin, je crois, en rédaction web. Elle fait beaucoup de marketing. Et j'ai pas bien compris le principe de formation, je sais pas si c'est accompagné ou pas, donc en tout cas elle vend des contenus de formation et des contenus pédagogiques dans le domaine. Je suis désolé Inès si tu m'écoutes, j'ai pas bien compris si t'étais une école ou si t'étais si tu proposais des formations. Bref, le tout étant que Inès, qui est quelqu'un de très bien, qui a sort d'un diplôme de marketing, expliquait dans cette interview quelque chose que j'ai déjà entendu dire par ailleurs, qui est très important, qui est quand tu as un plan et que tu l'appliques, ça marche. Quand tu as un plan et que tu l'appliques à la lettre, ça marche. Au début, tu corriges le truc, tu te crois malin, tu changes des trucs, tu dis « Ah, je vais faire plus ceci, pas assez cela. » Non, non, non. Quand tu as un plan qui marche, quand on t'a recommandé un plan, quand toi-même tu sais comment les choses marchent, d'accord ? Je fais des événements extérieurs, c'est l'entrée de mon tunnel de vente, ça permet à des gens de me rencontrer, ça fait le tri entre ceux qui ne sont pas intéressés par moi et ceux qui le sont. Et puis après, je les amène vers un produit gratuit. Et après, si jamais ils sont toujours convaincus et qu'ils ont envie d'aller plus loin, je leur propose un premier produit payant. Ils apprécient. Et ceux qui apprécient encore et qui en veulent encore plus, on est toujours sur ceux qui en veulent encore plus. Moi, je pars pas de l'idée qu'on manipule les gens. Je parle de l'idée que on amorce une espèce de dialogue valable avec les gens qui fait qu'au fur et à mesure, quand ils doivent investir beaucoup d'argent pour quelque chose qui a beaucoup de valeur, ben, ils ont confiance de le faire. Si vous devez acheter une voiture, je vais pas venir vous dire hey, tu veux une voiture ? Ma marque qui s'appelle Toraya fait une voiture à 200 000 $, c'est la meilleure du monde. T'en as jamais entendu parler, tu sais pas ce que c'est, tu sais même pas où elle a été construite. 200 000 $ et elle est à toi. Bon, ben là, c'est non direct. Mais si je viens dire, ah, Toraya, blablabla, regardez la marque, les journaux, le truc, validation sociale, témoignage client, etc. Tous ces trucs qui nous rassurent, tout simplement, qui nous prouvent qu'on est sur le bon chemin, bah, plus on avance là-dedans, plus, en effet, il y a un filtre qui fonctionne. Donc, Inès expliquait qu'elle avait vraiment défoncé et plié en deux LinkedIn en mettant des tonnes et des tonnes de contenu de qualité et de valeur qu'elle a donné aux gens pour se faire un nom, pour que les gens l'identifient et pour que les gens la suivent quand elle propose quelque chose par intérêt. Elle a commencé par créer une forme de statut d'influenceuse, en quelque sorte, pour pouvoir proposer le reste, parce qu'elle devenait à ce moment-là audible. Elle a passé la membrane, en quelque sorte. Donc, c'est une stratégie, elle l'a mise, elle l'a écrit sur le papier, elle a dit « je vais faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, et j'obtiens normalement ce résultat, ce résultat ». Elle l'a fait, et félicitations, ça fonctionne très bien. Elle parle même, dans l'interview que j'ai vue, de doubler son chiffre d'affaires pour 2024, donc félicitations, vraiment, ça marche très bien, personne n'est pigeonné dans l'histoire, tout le monde est content de ce qui se passe, parce qu'Inès travaille très très bien, et qu'elle propose des choses de très bonne qualité, qui plaisent réellement à ses élèves et à ses clients, et donc c'est parfait, d'accord ? C'est à aucun moment le marketing n'est conçu pour manipuler les gens, dans le sens négatif du terme, dans le sens amener les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. C'est toujours pour les amener à comprendre quelque chose pour pouvoir le faire pour les bonnes raisons. On est là-dedans, hein, les gestes barrières, tout le monde a dit « Ouais, c'est pas possible, les gestes barrières, oh là là !» Oui, sauf que quand on a compris le pourquoi, et ils ont fait du marketing là-dessus, hein, quand on a compris le pourquoi des gestes barrières, ben on les a fait, et c'était bon. Donc, il y a besoin de travailler le marketing pour qu'une idée, une nouvelle idée, un changement de comportement puisse avoir lieu, parce qu'on le comprend. L'exemple qui avait été donné en tant que performance marketing, ça a été le moment pendant la Deuxième Guerre mondiale où les Américains, toute leur meilleure viande partait sur le champ de bataille pour nourrir les soldats. Il ne restait que les parties de viande les moins bonnes et les abats, notamment, qu'on ne pouvait pas envoyer aux soldats, c'était pas possible. Eh ben, le gouvernement américain a mis en place une stratégie de communication redoutable, vraiment très présente, omniprésente, qui a expliqué aux gens comment cuisiner ces abats et comment valoriser, surtout. Les gens ont vécu une valorisation de ces abats au point que, aujourd'hui encore, dans la cuisine populaire américaine, il y a des plats à base de ça qui sont apparus de cette époque. Donc, incroyable de faire rentrer les abats du statut de produit médiocre et de basse qualité à un produit qui rentre dans la culture populaire. Fantastique. Donc voilà, vous comprenez un peu. Il faut un plan. Et il faut donc le master plan. Le master plan va définir, par exemple, à quoi sert votre blog. Vous avez créé un blog. C'est bien, on vous a dit de faire un blog en tant que freelance. Vous avez un blog. Et vous êtes devant l'interface pour écrire un article et vous savez pas quoi écrire. Pourquoi vous ne savez pas quoi écrire ? Parce que vous n'avez pas de plan. C'est tout bête, hein. À chaque fois, et ça, prenez-le comme un symptôme, hein, à chaque fois que vous vous apprêtez à faire quelque chose et que vous ne savez pas ce qu'il faut faire, que vous vous sentez perdu, arrêtez-vous, vous n'avez pas de plan. Il vous en faut un. Vous n'en avez pas. Et c'est vraiment une clé. Il faut vraiment comprendre ça. Les gens qui font les choses dans l'ordre, master plan, puis sous-plan, puis organisation, ne sont jamais perdus. Par exemple, là, on a défini pour le blog nos trois cibles et nos trois messages phares. Eh ben, Fleur va se faire un plaisir d'aller faire des recherches et de se documenter pour produire tous les sujets dont on a besoin. On va sans doute aussi utiliser ChatGPT pour ça, pour pouvoir faire le tri là-dedans et essayer de trouver tous les meilleurs sujets qui correspondent exactement aux besoins de nos spectateurs, de nos visiteurs, etc. On veut faire une chaîne YouTube, on veut la développer. De quoi allons-nous parler ? Eh ben, on sait de quoi on va parler parce qu'on sait à qui on parle et pourquoi on lui parle. Donc on sait très bien de quoi on va lui parler. Vous comprenez le raisonnement ? Ça fonctionne comme ça. Et ça, ça peut se faire que si vous avez des chemins. Alors la question, c'est ça. Quel est le chemin qui mène un inconnu, mais qui pourrait avoir besoin de vos services, à vous ? Quel chemin il doit faire pour ça ? Et quelles sont les étapes ? J'ai corrigé des exercices il n'y a pas longtemps pour l'examen. Et il y a une élève qui a fait une erreur. Je vous la cite, l'erreur, pas l'élève. Elle devait définir une stratégie éditoriale. C'était pour l'examen de fin de rédacteur pro. Donc nos clients peuvent nous demander des stratégies éditoriales, c'est normal. Donc elle doit faire une stratégie éditoriale et elle marque « Le client s'inquiète pour ce problème-là, il regarde la presse, il lit des choses et là, il entend parler de notre client » qui fait quelque chose pour résoudre son problème, qui a cette activité-là. Alors, il s'y intéresse, il tape le nom dans Google, il trouve le site et il va voir. Problème qui fait qu'elle n'a pas eu ce point-là en particulier, ça relève du hasard, ce qu'elle vient de décrire. Sauf s'il y a une stratégie éditoriale qui consiste à faire des leviers presse, c'est-à-dire de diffuser des interviews, des choses, des informations, des dossiers de presse, des communiqués de presse, et d'essayer d'avoir une surface médiatique qui est extrêmement intéressante. Ça dépend beaucoup de la taille de vos clients, mais si vous pouvez faire ça, c'est parfait. Mais s'il n'y a pas ça dans la stratégie, alors ça veut dire qu'on compte sur le hasard. Et le hasard ne fait jamais bien les choses, sauf une fois de temps en temps, qui va vous valider. Oui, je vous ai trouvé par hasard. Ah, donc le hasard existe, on peut y aller. Non, 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 il y en a 500 qui ne vous ont pas trouvé pendant ce temps-là. 500. Arrêtez avec le biais du survivant. Moi, je dois arrêter avec le biais du survivant. Qu'est-ce que c'est dur d'arrêter ce truc-là. Les gens me disent, oui, je suis venu jusqu'à toi parce que je corresponds en tout point à ce que tu proposes. J'ai fait des recherches, j'ai tout comparé, je suis allé sur tous les sites, j'ai trouvé des sites qui te recommandaient, j'ai trouvé des trucs et je suis arrivé jusqu'à toi parce que c'est toi la proposition que je veux. Super. C'est donc vraiment une chance que tu m'aies trouvé. T'as vraiment, toi, eu la volonté de passer toutes les épreuves et tous les freins pour arriver jusqu'à moi. Mais j'ai rien fait pour t'aider. J'ai rien fait pour t'aider. Est-ce que je me suis rendu plus facile à trouver sur les réseaux sociaux ? Est-ce que je me suis rendu plus présent ? Est-ce que j'ai développé une influence, une notoriété, un réseau, des recommandations ? Est-ce que des gens parlent de moi ? Est-ce qu'il y a des interviews de moi ? Est-ce que j'ai fait des choses pour que tu me trouves plus facilement ? Non. Donc, quelle chance que tu aies fait toutes ces choses. Tu es un survivant. Il faut regarder les morts, il faut regarder tous ceux qui n'ont pas survécu, qui avaient besoin de ma proposition, qui est unique, différente de celle d'Inès, de celle de Lucie Rondelet, différente des autres formateurs et formatrices, le Audrey Clabec et d'autres. Moi, je propose quelque chose qui m'est unique avec un style, un sens, une démarche, des choses qui sont uniques. Personne ne sait. Il faut faire véritablement une enquête pour me trouver. Je me disais depuis longtemps, c'est bizarre, mes élèves quand même, waouh, c'est des bosseurs, ils trouvent les trucs facilement, ils creusent bien, et rien que pour me trouver, il fallait déjà qu'ils fassent ça. Donc j'ai tout faux à la base. D'accord, j'ai déjà mis une épreuve en place qui filtre 99,9% des gens. Je ne simplifie pas les choses. Donc le biais du survivant, c'est ça. Vous allez sur Malte, et puis un mois après, vous avez un contact. Et vous vous dites, ouais, ça marche. La vérité, c'est que non, ça marche pas. Vous avez eu qu'un seul contact, c'est le survivant. Mais vous auriez dû en avoir peut-être 20, 30. Qu'est-ce que vous faites mal pour ne pas avoir le maximum? D'accord, si vous avez, si vous avez un robinet d'eau, que vous avez fait toute la tuyauterie et que vous ouvrez le robinet et qu'il y a un filet d'eau qui coule, vous voyez tout de suite qu'il y a un problème. C'est pas la tuyauterie ne fonctionne pas. Mais si jamais vous creusez un puits dans le désert et que vous avez un filet d'eau qui coule, vous vous dites « bravo, j'ai trouvé de l'eau ». Mais c'est pas la bonne question. Comment est-ce que je trouve un meilleur puits dans le désert? Comment est-ce que j'augmente la pression? Comment je répare les choses? Comment je fais la tuyauterie? C'est ces questions-là qui comptent. Et c'est le survivant, d'accord? Le biais du survivant. Alors, je vous le dis, au cas où vous connaissez pas cette histoire, hop, Oli, on rentre. Viens. La pauvre, elle est déjà partie pour faire une immense balade en forêt. Ah là là. Bref. Le biais du survivant, c'est tout simplement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, j'ai plus les détails, vous m'excuserez. Je crois que c'est les Américains qui envoyaient des avions pour bombarder l'Allemagne, le front, tout ça. Et en fait, les avions, il y en avait 100 qui partaient et il y en avait 30 qui revenaient. Et donc, on étudiait les impacts de balles sur l'avion. Et on se disait, ben, ok, les impacts de balles sont là, là, là. Regardez, là, elle est quasiment arrachée. Regardez, là, il y a des... Tout est perforé, il faut renforcer tout ça. Et on renvoyait les avions, et il y en avait toujours aussi peu qui revenaient. Ils ont invité un ingénieur particulièrement doué, je crois, à venir les rejoindre. Et l'ingénieur a dit, partout où vous voyez des impacts de balles, vous ne touchez pas. Par contre, vous renforcez tout le reste. Pourquoi? Parce que ce sont des survivants. Les impacts de balles ne les ont pas tués, ils sont revenus, les avions. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut réparer. Ce qu'il faut réparer, c'est partout où les avions n'ont pas été touchés. C'est là où il faut renforcer. Parce que c'est ça ce qui a tué les autres. C'est la raison pour laquelle, quand un influenceur vous dit « c'est facile d'être influenceur, achetez ma méthode », la question c'est combien de gens sont morts, dans leur projet, à essayer de faire leur méthode. Et combien de gens ont réussi. Regardez, je vous présente Bobby. Bobby a acheté ma formation en 2022. Maintenant, Bobby gagne 1 million de dollars par mois. Vous aussi, vous pouvez. Non! Combien il y a de Bobby? Donne-moi le chiffre. Combien tu as fait de ventes et combien il y a de Bobby? Ah, tu as vendu 1 million de formations et il n'y a que 2 Bobby? Le survivant. D'accord? Les Bobby en question ont eu une espèce d'alignement d'étoiles et de chance qui leur a permis de réussir. Donc, quand vous avez des signaux qui montrent que quelque chose marche, genre un client vous a trouvé, un mail de prospection a fonctionné, bah il faut vraiment réfléchir en permanence au survivant. Dire ce client qui a fonctionné, pour quelle raison lui il a fonctionné? Et pourquoi les autres n'ont pas fonctionné? C'est ça la question. Donc le master plan permet de cartographier ça un peu solidement en disant... Voilà ce que je fais, voilà les résultats que j'attends, voilà ce dont on a besoin pour que ça marche. Je prends le temps de réfléchir à chaque étape. Et après, une fois que ça c'est fait, je ne vais pas vous prendre trop de temps maintenant, mais une fois que ça a été fait, ce que je vais faire, c'est définir un plan qui me permet de tout mettre en place avec des étapes. 1.0, 2.0, 3.0. Je vais déployer les choses. De quoi j'ai besoin tout de suite pour générer des ventes? Combien j'ai besoin de trucs? Quel produit je propose? Quel produit je propose par la suite? Etc, etc. Le master plan. Et le master plan, en prime, une fois que vous l'avez fait, qu'il est dans un document, qu'il est bien segmenté, où on a bien une définition de à quoi va servir votre newsletter, ou à quoi va servir votre blog, ou à quoi va servir, votre compte Facebook, vous le gardez, ce truc-là. Et vous le réévaluez ponctuellement pour savoir si le master plan tient toujours, parce que vous êtes des débutants, en quelque sorte. Vous faites des erreurs de débutants. Et même si vous vous formez, vous ferez des erreurs de débutant. Donc on s'autorise toujours à tout remettre en question pour pouvoir atteindre une forme un peu plus parfaite. Mais ce sera une forme qui bénéficiera de tous les essais que vous avez fait précédemment et de tout ce que les gens ont déjà vécu avec votre marque précédemment. Il y a des gens, je ne sais plus... Il y a un mec qui disait « c'est facile de lancer ce truc, ça m'a pris 2 semaines et hop, ça se vend très bien ». Le gars, il était connu à la base. Donc bien sûr que c'est facile. Il a déjà toute une audience qui dit « ouais, vas-y, envoie ». C'est normal que ça marche. Mais il avait fait un énorme travail pendant des années et des années avant de faire ça. C'est il y a Seb, notamment. Seb Free ou Seb la frite qui fait des trucs qui sont géniaux depuis très longtemps, qui a commencé par faire beaucoup de choses bêtes mais en très grand nombre et qui s'est fait connaître, enfin il est connu notamment pour s'être fait insulter par The Rock donc voilà, c'est un gars qui est juste sans limite jamais, et pourtant tellement il a l'air tellement simple et tout. Bon, là il a monté une agence, ben, elle marche. Point. Elle marche très bien parce que ben, il a déjà un nom, il a déjà installé des choses. Donc le master plan, il va pas non plus jusqu'au bout, hein, il va pas jusqu'à la fin de votre vie, mais il peut faire pour l'année suivante, et puis il peut définir des objectifs. Et une fois que vous avez ce truc-là, ce document-là, qu'il faut prendre le temps de faire, hein, vous faites ça les week-ends, vous faites ça le soir, vous ouvrez une petite bouteille, petite musique douce, et hop, master plan. Vous pouvez même faire ça à plusieurs si vous avez envie de discuter avec quelqu'un et de voir si vous pouvez expliquer votre plan à quelqu'un. C'est parfait. Une fois que vous avez ça, et ben, toutes les techniques d'organisation, les Get Things Done, les Bullet Journal avec les trimestres, les semestres, les projets à l'année, les projets au mois, etc. Tout ça va avoir énormément de sens et ça va être très facile à mettre en place. Et surtout, vous aurez à abattre des heures de travail, mais vous ne vous sentirez plus jamais perdu. Et vous aurez des résultats si vous avez fait votre plan pour qu'il vous apporte des résultats à des moments donnés. Donc vraiment, on se pose, on fait le master plan et après on démarre. Voilà de quoi j'avais envie de vous parler parce que je suis en plein là-dedans. Ça fait une semaine qu'on fait ça déjà. Y a plein de trucs passionnants qui remontent. On fait le tri, les trucs qu'on a aimés, les trucs qui n'ont pas fonctionné, les trucs qui méritent pas qu'on continue, les trucs au contraire qui méritent d'être transformés parce qu'on a eu des super retours. On travaille beaucoup là-dessus et j'aime beaucoup parce que ça change un peu le métier, ça change la forme, ça change sa définition, ça change plein de choses. Donc, je vous recommande ce petit exercice. Allez, je vous dis à bientôt. Écoutez Laurie, elle mérite d'avoir un peu votre soutien. Elle bosse bien en plus. Allez, ciao !